Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Cédric Châtelus, Régis Nicolas et Philippe Thibault. Réalisation Alexandre Fougeron. Et autour de moi ce soir en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio, pour une dispute consacrée au cinéma, donc Lucille Como, Corinne Rondeau et Philippe Azzurri pour parler ensemble de Nuestro Tiempo de Carlos Regalas. Une intime conviction d'Antoine Rimbaud, The Last Movie de Dennis Hopper, et puis un coup de cœur signé Lucille Como pour Dans la terrible jungle de Caroline Capel et Amblin Lay. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour aller découvrir l'exposition Le Musée Pouchkine, 500 ans de dessins de maîtres. C'est jusqu'au 12 mai à la Fondation Custodia à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un cinéaste qui me passionne depuis longtemps, Carlos Regalas. Même s'il n'a pas toujours très bonne presse, d'aucuns l'accusant de se complaire dans la belle image, d'inutile complexité scénaristique aussi. Son précédent long métrage, L'hypnotique post-Tenebras Lux, lui avait permis de recevoir le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, c'était en 2012. Ce prix avait fait hurler une partie de nos consoeurs et confrères. 6 ans plus tard, 7 maintenant, il revient. Le cinéaste est toujours scénariste de ses films. Il revient avec ce nouveau long-métrage, Nuestro Tiempo, qui est peut-être une forme de réponse aussi à ses détracteurs par la simplicité de son récit. On va en parler sans rien sacrifier quand même à sa radicalité.
Hey. Man, I love what you fucking done with this place. It's beautiful. What you and Ed have done.
Thanks so much.
Esos son los toros que nacen en esta ganadería, señores.
Phil, yeah. You want to stay overnight for some weekend mezcal?
Yeah, I'd love to, but I'm going to catch a ride into Mexico City with Esther.
Hola, amor, ¿me abres?
Sí, mami.
Estamos juntos hoy. Los extrañé mucho.
Sé que no estuviste con Santiago en toda la tarde.
¿Y dónde estuve?
Basta, estaré 17 llamadas en tu teléfono y la letra P.
De regreso pasé por el pueblo donde está arrendando Philly.
¿Y por qué me lo has ocultado?
Estaba esperando a que se calmaran las cosas.
¿Y cómo se van a calmar si no lo hablábamos? La vida es complicada a veces, ¿verdad? A veces hace uno cosas terribles.
Todo lo que decía sobre el amor, esas ideas en contra de la posesión, todo es una absoluta falacia.
Tú manejaste todos los hilos.
Te amo.
Yo a ti.
Ambiance, on a entendu parler des hommes, des femmes, des enfants, des animaux aussi, assez gros généralement, des taureaux plutôt. Et je n'ai rien dit encore de ce qu'on peut suivre comme fil narratif, et il est très clair dans cette histoire, Lucille Como, de Nuestro Tiempo.
Oui, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, donc de Juan et Esther. Ils tiennent un ranch au Mexique. Lui est aussi poète, on l'apprend au fil du film, c'était même un poète reconnu. Et ils tiennent donc ce ranch entouré à la fois de domestiques et aussi de gens qui travaillent pour eux auprès des animaux. Ils ont des taureaux et puis des chevaux. Et dès le début du film, Esther a un amant, en la personne d'un dresseur de chevaux qui s'appelle Phil, et qui est américain, comme son nom l'indique. Et le mari l'apprend très vite, et en dépit de tous leurs principes, qui apparemment sont très libres, hein, leur conception du couple, cette histoire va grignoter un peu, et puis le couple va se déliter au fil de 3 heures de film. Donc c'est quand même un film très long, qui est extrêmement non seulement vaste par la durée, mais aussi par les étendues et les paysages qu'il montre, et assez spectaculaire aussi par un certain nombre d'effets qui sont convoqués, un film assez baroque finalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contraste entre quelque chose d'assez tendu et classique, qui est la forme même du délitement d'un couple, qui est tenu du début à la fin, qui est une cohérence narrative du film, et son espèce d'expansion et sa volonté de spectaculaire qu'on lit surtout dans des plans assez longs sur la nature environnante, sur les chevaux et sur les taureaux. Il y a des scènes entières, des séquences entières d'élevage de taureaux. Moi, c'est un film qui m'a laissé, qui m'a beaucoup ému, qui évidemment est impressionnant, mais en même temps qui m'a laissé une forme d'impression de vanité, je dirais, quelque chose d'assez vain. Et je pense que ça tient justement à l'entrelacement de ces deux motifs, qui sont à la fois la question du couple, enfin du délitement du couple, et toute la métaphore filée qui apparaît au fur et à mesure et que je trouve un petit peu lourde avec l'évolution du paysage, l'évolution des animaux. Ça me met un peu mal à l'aise sur ce que ça veut dire du couple et notamment de la femme, qui est le personnage à mon avis le plus intéressant et qui par ailleurs à d'autres égards, je y reviendrai après, mais a plein de choses absolument passionnantes dans justement ce qu'elle ne donne pas à voir au spectateur. Mais il y a quelque chose de presque trop primaire et de trop explicite dans la métaphore. Il y a notamment beaucoup de scènes à la fois de dressage de chevaux et de taureaux. Il y a une scène de corrida. Toutes ces métaphores là pour le couple, elles sont connues, elles sont très usées et par ailleurs elles sont extrêmement machistes au sens premier du terme. Enfin, elles sont centrées sur la question du mâle. Et les derniers, bon, je vais pas donner la substance des dernières images, mais moi j'ai été assez déçue par la fin et qui m'a fait remonter dans le temps du film et me laisse à penser que toute cette forme, tout ce déploiement, y compris littéraire, parce que c'est aussi un film très littéraire, se déploie de manière très sophistiquée pour au final dire quelque chose d'assez simpliste, je crois, sur la relation amoureuse et sur le couple.
Simpliste ou simple ? Bon, je laisse la question ouverte, hein, Lucille Como. Philippe Azzouri, premier regard sur Nuestro Tiempo.
Oui, alors j'étais un peu comme beaucoup de gens. Enfin, je ne savais plus exactement où j'en étais avec Regadas. Rapone, Batalla nel Cielo, c'était le film qui m'avait, je pense, beaucoup plu à la sortie, que j'ai évité de revoir, par prudence. J'ai un rapport très compliqué avec Lumière silencieuse, qui était son troisième film, parce qu'un film que je n'ai pas aimé, mais dont j'ai finalement gardé un meilleur souvenir, mais pareil, par vue. Et j'avais complètement oublié Post Tenebras Lux, donc je n'ai pas vu, je ne me souvenais plus qu'il avait le prix. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, était un peu sorti du game, comme disent nos amis rappeurs. En tout cas, du mien, quoi, voilà. C'est quelqu'un auquel je pensais pas. Finalement, la dernière fois que j'avais un peu des nouvelles de lui, c'est un autre film mexicain, qui est un premier film, je crois, n'est pas sorti en France, s'appelait Güeros, de Alonso Luis Palacios, qui vient d'une génération d'après, et où Regadas était, enfin, c'était masqué, c'était un film à clé, mais à un moment donné, il y a une scène dans une sorte de grande baraque avec piscine où tout le monde prend de la cocaïne et on comprend que c'est chez lui. C'est un peu l'idée que donc les jeunes cinéastes mexicains donnent de Regadas, quelqu'un qui a 47 ans aujourd'hui, des grandes baraques avec beaucoup de coke, et donc on se dit bon, si on en est encore là, bon, allons voir, mais je traînais un peu les pieds. Puis
parce qu'il faut dire qu'il a quand même aussi produit nombre de films de ses anciens assistants et de beaucoup de jeunes cinéastes.
Lui et son cousin, je crois, ce qu'on a un peu vu à Cannes il y a quelques années. C'était toujours comme ça, très sympathique. Et j'ai été un peu resté là, j'avais pas l'impression, j'ai raté le film. Il y avait des échos de Venise qui effectivement revenaient pas mal sur le machisme plus ou moins avéré du film, et on sent que la sortie, c'est un peu en catimini. Et j'ai eu un choc mercredi soir en le découvrant. Je pense que c'est, alors je vais pas dire que c'est son plus beau film, parce que j'ai pas vu Post Tenebras Lux, donc il m'en manque un, mais en tout cas de ceux que j'ai vus, c'est celui qui m'a renversé. C'est effectivement un film d'une certaine manière désagréable, mais qui appartient, et c'est pour ça qu'il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est toujours compliqué, ce type de film, où le personnage, d'autant plus s'il est joué par le cinéaste, et c'est le cas de Regadas dans Nuestro Tiempo, est une sorte d'autoportrait en connard assumé. Ça m'a rappelé un film qui est magnifique et qui est aussi difficile à avaler, qui était les saisons de Nuri Bilge Ceylan.
Les climats,
voilà. C'était ça. Je savais que je l'avais pas. Je le notais sur le papier en sachant que c'était pas ça. Les climats. Voilà. Enfin, où certains des Pléchins, certains Bergman, évidemment, parce que c'est la figure titulaire de ça. Enfin, réellement, où on rentre dans le délitement d'un couple et où personne ne sort gagnant, ni l'homme, ni la femme. Évidemment, on a plus d'enclin à aimer des films où les personnages sont positifs, ou au moins aimables. Là, non. Là, on a effectivement une grande baraque, on a de la cocaïne, on a un mec qui essaye de tirer les ficelles de son délitement amoureux, et qui effectivement au final n'y gagne pas. Est-ce que ça en fait un film machiste? Oui, un peu. Est-ce que ça, mais ça, mais quand, quand on dit ça, on oublie qu'il y a une scène incroyable. Je sais pas si, si ça me revient. Je suis un peu troublé par le litchi burrata qui est passé au-dessus de moi. Je suis désolé.
C'est
les aléas du direct.
C'est, hein, ça, c'est le ça. Direct au Bel Air.
Non, c'est un peu perdu le film, mais il y a une scène incroyable où, le, où on est filmé d'avions qui survolent, comme ça on voit Mexico, c'est absolument splendide, et c'est une lettre ou un mail plutôt que Esther envoie, c'est Juan, hein, c'est ça,
le
comme Juan Rulfo, qu'elle envoie à son mari, donc qui est joué par Egadas, et c'est une, et c'est, et on peut pas accuser à cet endroit-là le film de machisme, parce que, enfin, c'est une destruction de toute sa position à lui, et le spectateur à ce moment-là sait très très bien où il en est. C'est un film amer, pas forcément très agréable, mais sublime.
Corinne Rondeau, qu'on n'a pas encore entendu sur Nuestro Tiempo.
C'est un film immense. C'est un film immense et c'est l'offrande sublime.
Je croyais que Corinne allait dire c'est immonde et je me suis dit non.
Non, non, c'est immense. Pas machiste.
L'offrande voilà. Sublime.
Je ne tombe pas le bébé.
C'est, d'abord, c'est des régimes d'images très différents et qui sont saisissants. Pas simplement en termes de photographie et de beauté, c'est une manière de rendre pluriel l'histoire. Il y a à plusieurs reprises des séquences qui sont absolument incroyables. Il y a cette scène de concert avec une percussionniste. Et à un moment donné,
musique contemporaine,
mais on sort de l'opéra, il y a des techniciens, il y a un bruit d'hélicoptère, il y a le bruit, et on revient. Et en fait, il y a cette multiplicité, parce qu'il y a quelque chose de la pluralité, du langage à l'intérieur de ce film, comme il y a une diversité de régimes d'images. Et ça, c'est, je trouve que c'est d'une grande force d'écriture. Et il y a une phrase qui passe comme ça à l'intérieur d'une autre séquence où il est invité face à un public, mais on le voit pas, on voit que le public autour de sa poésie. Oui, oui. C'est un public complètement clairsemé. Et il y a une phrase qui vient qui est « La poésie est faite pour nous faire voir. Les mots sont faits pour nous faire voir. » Et c'est ça. Et le film, il est construit là-dessus. Et je trouve que au niveau du personnage féminin d'Esther, d'abord, cette femme est sublimissimement belle, ouais, premièrement. Et deuxièmement, elle a tout ce qu'il n'a pas. Et c'est ça aussi la question du couple, à savoir comment, quand on est dans un couple libre, vous l'avez dit, Lucille, c'est jouer dans un couple libre, c'est-à-dire mettre de l'écart. Et dans l'écart, il y a toujours la prise de risque de la séparation. Donc le film, évidemment, en plus, depuis Rapone, moi, c'est le premier film que j'avais vu de Regadas, c'est la question de l'abandon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on est prêt à quoi on est prêt, à quoi on peut renoncer, est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on, du renoncement. Il y avait déjà ça dans ces films.
C'est l'abandon, j'ai l'impression aussi que c'est la vanité de la possession, y compris quand on disait les grandes baraques.
Non, mais le film travaille. Oui, voilà.
Non, mais même sur ce qui est l'histoire du Mexique.
Je peux finir
du Mexique.
Oui, ouais, ok, merci. Donc, on est effectivement au niveau.
Pas là pour discuter.
Non, mais si, bien sûr.
Mais vous êtes d'accord en plus.
C'est la question de la propriété avec la dépossession. Enfin, tout le film traite de ça. Et la manière dont il a de filmer sa compagne. Enfin, la femme de son, enfin, dans le film, puisqu'ils sont dans la vie, ils sont en couple. Oui, d'accord. Mais enfin bon, je veux dire, elle peut aussi. Non, mais attendez, c'est pas parce que les mecs qui peuvent avoir des rojones et qui parlent de ce qu'ils ont entre les jambes à longueur de film que les filles sont soumises. Je veux dire, elle est très contente de faire ce qu'elle fait avec son fil, hein. Non, vous avez pas eu l'impression? Ah bon, d'accord,
je suis pas sûre.
Enfin, bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est pas son mari qui lui met dans les pattes. Hein. Mais la séquence où elle revient de Mexico en voiture, cette séquence où la caméra est dans le moteur, elle est ailleurs, cette manière
Qu'est-ce
de...
Qu'est-ce qui va me rester à dire, Corinne, non, mais, après tout ça?
Ben, le reste, allez-y.
Le générique.
Oui, il y a pas
non,
mal
mais ce
de
qui est merveilleux, c'est... Non, mais je veux dire... En plus, je trouve que c'est un film ultra féministe.
Moi aussi.
C'est
moi
juste
aussi.
Pour vous bon. Embêter, Lucie, parce qu'il y en a marre, féminisme, machisme, machin.
Ah non, vous n'avez pas recommencé.
Ah si, je recommence.
Bon, alors regardez les épisodes précédents, abonnez-vous au podcast pour rechercher cette occurrence concernant ce débat sur le féminisme entre Corinne Rondeau et Lucille Comeau. Non mais parce que, bon, beaucoup de choses à dire. D'abord, j'invite Philippe Azoury à voir Post et Brass Looks parce que ce film-là, on est la suite, parce qu'on avait le départ d'un couple pour la campagne, comme si c'était, on allait retrouver quelque chose de l'amour pur, parce qu'on serait loin de la ville et des tentations. Donc il y a vraiment quand même une continuité avec ce nouveau film, et de façon très différente. Le cousinage avec les climats, donc de Nuri Bilge Ceylan, est très saisissant, parce que c'est aussi le seul film du cinéaste turc que j'aime immensément, où il se mettait en scène lui-même avec sa compagne. Donc on a vraiment quelque chose de mimétique là. Mais non, mais je vous ai arrêté sur l'exemple de cette caméra au moment du retour de Mexico en voiture. Parce que Lucille Comeau, vous dites tout à l'heure, oui, il y a quelque chose de très simpliste, de très appuyé. Et je crois que c'est une des forces du film d'être extrêmement littéral. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? Eh ben, on va filmer le moteur. Moi, j'ai jamais vu ça en dehors du saisissement optique, enfin, ou cinégénique. Il y a quelque chose de comment ça fonctionne là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ces moyens de comment les énergies se répercutent les unes les autres ? Comment ça peut figure d'entraînement ? C'est très simple pour moi et ça fait partie des visions. Corinne Rondeau, avant Lucille Comeau, vous êtes jetée sur le micro là.
Non, mais je trouve qu'il y a un travail sur le montage qui est absolument sidérant parce qu'il y a cette manière de passer. La vie, c'est ça, on passe d'une chose à l'autre et le film est structuré à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'à la fois, il est dans le temps, notre temps, qui peut être le temps, effectivement, des saisons. On commence dans un beau jour de soleil, même si les enfants s'amusent dans la boue, ou dans une espèce de lac boueux.
Tout ce début est extraordinairement beau.
Non, mais c'est assez... Et puis, on finit dans une brume. Effectivement, c'est un propriétaire terrien et de bétail, donc évidemment, on est... Enfin, c'est pas parce qu'on est dans un bétail qu'on est dans un machisme, mais moi je trouve que ce travail de montage, il est absolument admirable. Et cette séquence en voiture où elle écoute la musique, où il est à cheval, il y a la pluie, elle baisse la vitre, et d'un coup on a un changement de son, parce que le son est très important dans le film, mais c'est d'une beauté folle parce que c'est exactement ce qu'on vit dans la vie, en termes de sensations.
Lucille Comeau.
Non, mais je trouve que c'est un film magnifique. Par ailleurs, je vous donnais du grain à moudre. Non, par exemple, ce que je trouve très beau, moi, je suis pas très convaincue, justement, par les scènes que vous avez citées, notamment la scène où on est dans les roues hein, de l'avion à l'atterrissage, et puis cette scène sous le capot. Je les trouve, justement, un petit peu lourdes dans ce qu'elles peuvent signifier du reste. En l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène, c'est le cadre. C'est le travail sur le cadre, c'est la manière dont la caméra, parfois, se pose, et c'est souvent dans les intérieurs qui sont magnifiques, dans cette immense maison qu'on n'arrive même pas à comprendre en fait géographiquement,
c'est
impossible de la comprendre. La caméra se pose et les personnages entrent et sortent dans le cadre, on continue à les entendre quand ils sont hors champ, et c'est ça nuestro tiempo, c'est le temps que ça se décante, c'est-à-dire le temps où on sort, on re-rentre, on a changé d'avis, on écrit un mail à table, on recommence à parler, etc. Tout ça, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est simple, enfin je veux dire, c'est fin. Il y a beaucoup d'autres choses que je trouve plus lourdes, et vous parliez de simplicité, en l'occurrence il y a aussi beaucoup, beaucoup de dispositifs. Le fait même de faire jouer les personnages principaux par lui-même, sa femme et ses enfants, parce que c'est vraiment la famille qui est reconstituée à l'écran, il y a quelque chose dans ce que ça veut nous dire du voyeurisme, parce que le voyeurisme est quelque chose de profondément important. On n'a pas dit que donc ce mari... Mais si, bien sûr, mais je veux dire, c'est une posture, c'est pas forcément moral, là, ce que je dis. C'est juste une posture esthétique. Ce personnage, il aime voir sa femme aussi avec d'autres hommes, ça revient à plusieurs reprises dans le film.
Non, mais
laissez-moi finir, Corinne. Et en l'occurrence...
Chacun son tour.
Et en l'occurrence, ce voyeurisme, il est thématisé à l'écran et il est également la forme même du film, puisqu'il se regarde en train de faire ça avec sa femme et ses enfants. Et ça, il y a quelque chose de tautologique là-dedans, qui alourdit énormément le propos sur le couple. Vraiment, pour moi, c'est lourd.
C'est aussi ça, des couples. C'est pas votre couple, ni tous les couples. Mais c'est aussi ça. Et c'est pas parce qu'il cherche à savoir ce qu'il y a dans le regard de sa femme avec un autre homme que ça s'appelle du voyeurisme. C'est peut-être voir autre chose que du sexe en permanence. Et je pense
que le voyeurisme, c'est pas forcément quelque chose qui est lié
au sexe.
Oui,
mais vous l'axez sur la question... Du sexe,
non,
alors
j'ai dit du
effectivement.
Couple.
Oui, elle a dit couple.
Ouais, d'accord. Enfin, il donne sa femme dans les bras d'un autre. Enfin, bah, pardonnez-moi de vous le dire, c'est pas du couple.
C'est ce qu'on voit dans le film.
Bon, d'accord. Allez voir le film.
Philippe Azoury, un dernier mot.
Je vais aller fumer une cigarette.
Sur Nuestro Tiempo.
Non, je pense que s'il est nécessaire pour lui de jouer dans ce film, de faire jouer sa femme, de faire jouer ses deux enfants, je pense qu'il en va aussi d'une réponse. Je pense que c'est un film qui sort d'une crise. Il a pas tourné depuis quoi, 7 ans. Ouais. Il y a une crise profonde chez Regada. Je pense que c'est quelqu'un qu'on a accusé à tour d'être poseur, d'être aujourd'hui un gosse de riche, un enfant gâté du cinéma mexicain. Et il revient avec un film qui est un exercice de vérité, cruel à son endroit. C'est l'autocritique. Et ça ne peut se jouer qu'effectivement à 3-4, dans une très très grande maison qui montre aussi un pays. Et c'est ce que je voulais dire, Corinne, avant que je me me fasse engueuler, mais qui a aussi dépossédé des terres à des Mexicains. Et cette position-là, elle n'est pas non plus à son avantage dans le film, économiquement, oui, mais la façon dont il le montre, c'est quand le Mexicain vient pour l'aider à acheter une voiture d'occasion et qu'il met justement sur le son, il n'y pense pas du tout, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il pense à sa femme et le son recouvre ça. C'est aussi le je veux pas voir ça, je veux pas voir que je suis aujourd'hui un héritier d'une terre qui a été volée à des gens. Et c'est cette dépossession-là, et c'est tout ça le film. Et c'est cet exercice de vouloir tout posséder, de ne rien arriver à posséder et d'en tirer un film qui est magnifique. Il lui faut 3 heures, il faut 3 heures à Kechiche, c'est pas rien. Aujourd'hui, il faut du temps pour des cinéastes pour arriver à faire remonter quelque chose d'une vérité absolument à tomber par terre.
Comme Nourri Bilgué-Djellan et Le Poirier Sauvage. Voilà, Le Poirier aussi, Sauvage, aussi dernier exemple. Grand film aussi. Bon, on n'épuisera pas le sujet, hein, Lucille Como, de Nuestro Tiempo de Carlos Regadas, que nous, on vous invite en tout cas, évidemment, à aller voir sur grand écran, profiter aussi de cette... Qu'est-ce qui se passe pendant que je désannonce cette séquence?
C'est moi qui jette mes feuilles.
Ah oui, bah, ça a dû faire du bruit, il y en a beaucoup. Ah, de rage. Alors gardez votre rage pour la suite de la dispute, soyez enragés pour une intime conviction de Last Movie et sans doute aussi pour Dans la terrible jungle.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Suite de cette dispute cinéma en public au Bel Air, dont on entend les commandes à quelquefois passer, on va parler à présent du premier long métrage d'Antoine Rimbaud, Une intime conviction, film qui fictionnalise une affaire bien réelle, celle qui concerne Jacques Viguier, accusé du meurtre de son épouse, celle-ci ayant mystérieusement disparu, mais on n'a jamais retrouvé ni cette épouse ni le corps de celle-ci. En tout cas, il a été acquitté en première instance et s'en est suivi un procès en appel. C'est ça qui nous intéresse dans ce film, au niveau temporel. Une femme qui est convaincue de son innocence. Cette femme, c'est l'élément fictionnel du récit, puisque son personnage a été inventé pour le film. Cette femme donc va tout faire pour convaincre, dans un premier temps, l'avocat, célèbre avocat Éric Dupont-Moretti, de défendre Viguier.
Maître Dupont-Moretti,
c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier.
Je viens vous proposer de reprendre l'affaire.
Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier.
Je vous parle d'une erreur judiciaire, là.
Monsieur Viguier, vous avez mis 3 jours à déclarer la disparition de votre femme.
En vrai, ils savent même pas si elle est morte, hein. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile.
Et vous êtes qui, alors?
Je suis une amie de la famille.
Il dit qu'ils ont aucune preuve, mais toi non plus, tu peux pas être sûr.
Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas sur lequel dormait son épouse?
250 heures d'écoute téléphonique. Elle va dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous.
Ils ont retrouvé le sac à main, dans la maison, avec les clés de la maison, dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'il y a préméditation.
Monsieur, il voulait divorcer.
Jacques ne l'a pas supporté.
On s'appuie sur des témoignages. Et tout ramène à Monsieur Viguier, à la piste conjugale.
Tenez.
Dans la baignoire, vous voyez du sang. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier?
Oui.
Ah bon? Vous en pensez quoi, vraiment?
Il est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démord pas.
Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent.
Hein. T'as pas le droit de faire ça.
J'ai pas le droit de faire quoi?
N'est-ce pas le droit d'interdire ce personnage?
Alors?
Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance.
Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois.
Vous aurez sans doute reconnu dans cet extrait, enfin cette bande-annonce d'une intime conviction, les voix de Marina Foïs, d'Olivier Gourmet. Alors Laurent Lucas, il parle pas, donc quasiment pas. Donc je sais même pas si on l'a entendu là dans cette bande-annonce. Marina Foïs, on est vaguement au courant que sort ce film. Je crois qu'elle est à son 143e une de magazine cette semaine. Et c'est Philippe Azoury qui a la grande chance de commencer à parler de ce film, Une Intime Conviction.
J'avais tout fait, je regardais les logos par terre. Mais ouais. Je veux pas croiser son regard. Ouais,
pas besoin.
Non, mais pour autant, j'ai plutôt des choses à dire. Enfin, bah, j'espère.
Commençons.
Je vais faire mon travail sur Une Intime Conviction. Comme vous le disiez, c'est d'après une histoire vraie. Ça devient de plus en plus un problème, parce que ça arrive en début de générique, et comme à peu près tous les films qui balancent ça dès le début du générique, ils oublient souvent de filmer. Alors effectivement, là, on dirait que c'est une autorisation à la paresse en termes de cadrage, en termes de, on va dire, de mise en scène, en termes de placement de la musique. Parce que il y a le réel. Bon, quand même, le réel, ça se cuisine, comme dirait l'autre. Et c'est plutôt une tambouille qui, en termes de mise en scène pure, de cinéma pur, surtout quand on passe après Nuestro Tiempo, et pas d'un, voilà, c'est plutôt une tambouille de pas très très grand niveau. Mais Antoine Rimbaud, donc, dans ce premier film, a l'air de s'en consacrer sur deux points, qui sont un peu des points aujourd'hui, on pourrait dire un peu archaïques, comme ça, du cinéma, qui sont d'un côté le scénario, et de l'autre, ses acteurs. Alors, on va commencer par les acteurs, parce que les acteurs sont une sorte de monstres sacrés, comme ça. On voit arriver, donc, Olivier Gourmet, plus Éric Dupond-Moretti que dans la vie. Alors, moi, je dois avouer qu'une fois, j'ai croisé Éric Dupond-Moretti, je pensais que c'était Olivier Gourmet. Donc, enfin, le truc est, je suis très mauvais. Par exemple, j'ai pas reconnu ma sœur dans la rue.
Si vous avez fait la distribution. Ah oui, d'accord.
Je suis pas très, très bon physionomiste, mais quand même, enfin, voilà, la distribution du film, ça fait très longtemps qu'on l'a dans la tête. On se dit, tiens, s'il y a un truc sur Éric Dupond-Moretti, il faut mieux l'appeler Olivier Gourmet. Bon, ça a pas loupé. Et Marina Foïs, qui est quand même une sorte de personnage qui, moi, m'intéresse, en dépit, effectivement, des 185-1 en 3 mois. Dont celle de Society, je crois, de cette semaine, avec une énorme cigarette. La loi E20 n'est pas passée par là. C'est quelqu'un quand même qui m'intéresse. Ah, oui. Le parcours, enfin, on peut dire que de je sais pas, elle faisait quoi, les Robins des Bois. Ah, oui. Aujourd'hui, on la retrouve chez Honoré. On sait qu'entre-temps, c'est quelqu'un qui, par exemple, est fasciné par la photographie d'Antoine Dagata. Enfin, on se dit que dans les grands acteurs populaires aujourd'hui, elle a une place comme ça assez intrigante. C'est plus ce que fait Gourmet qui m'intéresse dans ce film-là, plus que Marina Foïs. Je trouve convaincante, mais qui ne m'impressionne pas comme elle peut m'impressionner par ailleurs. C'est Gourmet, parce que Gourmet arrive avec cette ressemblance, donc effectivement tellement facile, tellement paresseuse sur le coup, qu'on se dit, tiens, il va faire Éric Dupond-Moretti. Mais le problème, c'est que le film est un film sur Éric Dupond-Moretti. Le film se fout à peu près du procès, c'est Viguier, hein, c'est ça. Enfin, l'affaire Viguier, l'intéresse très très peu. Marina Foïs, ça ne sert qu'à montrer le cheminement d'un avocat juste avant, enfin, en tout cas dans les semaines et les mois qui vont précéder la plaidoirie jusqu'à la plaidoirie. Pour opposer deux choses qui sont très étranges, qui sont d'un côté le cinéma, tel que nous on le connaît, c'est-à-dire le cinéma, il est fait sur des élans sentimentaux, il se fait une idée toute faite, il veut chercher, et de l'autre côté, ce sera tout le travail de ce scénario-là, un peu parfois un peu lourd, comme ça, co-signé avec Karim Dridri, c'est de dire non, regardez ce que c'est la justice c'est pas le cinéma. Et ça crée un drôle de film qui est pas très cinématographique, qui est pas très pro-cinéma, qui est plus pour la justice que pour le cinéma, ou en tout cas que pour les cinéphiles, qui est presque très proche de fait entrer l'accusé, même s'il se moque de l'émission, en tout cas il lance une pique à l'émission au milieu du film, alors que c'est à peu près le même type de cheminement. Et c'est un drôle de truc, parce que ce film n'est pas censé m'intéresser, enfin c'est des choses un peu des années 50, on dirait comme ça, et j'ai fini quand même par me faire piquer au jeu, j'ai plutôt regardé ça sans déplaisir.
Bon, Corinne Rondeau à présent, non pas du tout, sur une intime conviction d'Antoine Rimbaud.
Oui, bon, alors Philippe l'a pas aimé. Bon, c'est un film qui
se fait. Il vient de dire qu'il avait pris plaisir.
Non, mais il fait croire. Mais c'est pas vrai. Gros podcast. Allez, bon, bref, non. Pour un premier film, on va dire que.
Corinne Rondeau.
Pour un premier film, on va dire que. Bon, ça va, il se tient. Il tient. Je trouve qu'il a une manière de mettre un rythme et une vitesse dans son film qui sert vraiment. Les deux personnages, puisqu'en fait le film est porté par les deux acteurs. C'est vrai que Marina Foïs, on n'a pas envie de la rencontrer parce qu'on a peur qu'elle vous file un coup de boule direct. Elle est limite borderline tout le long du film et c'est un peu pénible. Mais au final, je veux dire, malgré une certaine, comment dire, pas naïveté, mais il y a de la naïveté quand même, c'est une volonté de dire, regardez, la justice. Il ne peut y avoir de justice qu'à la condition que la croyance cesse. La croyance dans la certitude. Et donc le film est une sorte de dédoublement de Éric de l'avocat, ou de toute façon, au-delà même de la situation du fait réel, je trouve que c'est un film qui dit à la société française, au niveau du droit, ne croyez pas que les interprétations et votre opinion de comptoir suffisent à faire justice.
Pas d'image toute faite.
Et donc, en fait, le film repose sur une sorte de dédoublement entre l'avocat de la défense et cette dimension subjective qui est représentée par l'élément fictionnel du fait réel qui est représenté par Marina Foïs. Donc, je trouve que c'est assez intelligent pour un premier film.
pour dire à cette société dans laquelle on est baigné dans les médias qui sont manipulés, manipulateurs, les deux à la fois, c'est ce que démontre le film, sur tout ce qui peut passer comme rumeur et comme témoignage en dehors de l'enquête et de, justement du silence qui doit être fait autour des accusations, hein. C'est-à-dire la présomption d'innocence. Et ce que je trouve assez beau, si vous voulez, pour ce jeune réalisateur, c'est de maintenir qu'il n'y a pas, la vérité n'existe pas, et que surtout la justice, c'est-à-dire le point nodal de la vérité en justice, c'est de maintenir le doute. Mmh. Et ça, je trouve qu'on est un peu trop tiré par les acteurs, mais quand on arrive à lâcher tout l'artifice du jeu d'acteur, il y a quand même ça qui passe, et je pense que ça peut faire du bien à un certain nombre de gens qui disent absolument tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait c'est le pendant de toute la dimension médiatique du film.
Lucille Como, une intime conviction, et vous ?
Oui, ce que fait ce film, en fait, c'est qu'il invente un personnage relais. Moi, j'avoue, j'ai l'impression de détecter ça assez vite dans le cinéma français, cette propension à créer des personnages pour nous faire comprendre des choses à nous, spectateurs, comme si on n'était pas capable d'appréhender toute la complexité du réel tout seul. Or là, le réel, il est suffisamment complexe comme ça. Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Philippe. L'affaire, elle est intéressante et elle est rendue intéressante par le film. L'affaire Viguier, sur le fonctionnement de la justice, et puis même parce que c'est une disparition qui n'est pas élucidée, elle est passionnante. Le fait divers, moi, je suis à fond pour, je trouve ça passionnant, un film sur un fait divers.
J'en parlerai.
Voilà. Alors moi, j'aurais aimé voir un film sur ce fait divers et sur le procès auquel il a donné lieu. Et je vois deux films, donc ce film-là, un film de procès, un film de tribunal, qui est une forme classique, avec en effet des scènes de cour, la plaidoirie de Dupond-Moretti à la fin, qui est heureusement en intégralité à peu près dans le film. Et puis, ouais,
non,
un autre
une heure,
film.
Elle dure 10 minutes dans le film.
Non, mais je veux dire, au moins, c'est pas coupé. Je vais y venir.
La séquence.
Voilà, parce que le problème, c'est qu'il y a un autre film, et que cet autre film, qui n'est pas un film inintéressant, c'est un film, pour le coup, psychologique, un peu mélodramatique, sur une femme qui se passionne pour un fait divers, donc avec un effet un peu méta, et qui devient complètement folle au point d'en oublier son enfant, de quitter son travail, etc. Or, ces deux films-là, bon déjà c'est lourd d'avoir deux films dans un film, et en plus ils rentrent à mon avis vraiment en conflit. Ça se voit formellement, parce que comme vous le disiez Philippe, c'est quand même assez raté, moi je trouve, et assez pénible. En effet, c'est très rythmé, mais au prix de d'un montage alterné entre les scènes de cour et sa vie quotidienne à elle, qui sont extrêmement pénibles. On a envie de voir l'entièreté de la plaidoirie de la partie civile. On n'a pas envie de la voir en même temps en train de poêler des cèpes dans son resto. En fait, on s'en fout. Et ça, c'est permanent. Donc ça, c'est vraiment pénible jusqu'à la fin où, heureusement, bon, ça se fixe un peu au tribunal. On est bien content. Et leur rencontre aux deux personnages, qui sont en effet en plus des sortes de monstres sacrés maintenant du cinéma français, sont incohérentes. De toute façon, c'est totalement absurde qu'un avocat de la stature de Dupond-Moretti prenne crédit et prenne le risque d'utiliser le travail de quelqu'un qui, en plus, bon, on le découvre, est extrêmement lié au procès. Et en plus, en fait, dès qu'ils se rencontrent, bon, moi j'étais dans une salle où tout le monde riait, parce que c'est comique en fait de la voir rentrer dans Dupond-Moretti, rentrer dans sa chambre d'hôtel de force, lui téléphoner à 4h du matin. Ça ne fonctionne pas, ça crée un effet grotesque, parce que les deux films, quand ils se rencontrent, en fait, ça crée du rien. Donc, bon, après, c'est pas désagréable non plus, c'est assez divertissant. Moi, je n'ai cessé d'être frustrée qu'on me pose la caméra dans ce tribunal et qu'on me laisse entendre les délibérations, qu'on me laisse entendre les plaidoiries en entier, parce que c'est ça que je voulais voir vraiment.
Alors, effectivement, Antoine Rabaud n'a pas réalisé le film que vous aviez envie de voir. Lucille Como, je résume.
Vous alliez aux assises, ça serait mieux pour vous.
Cette intervention.
Mais oui, en fait, c'est exactement ce que je voulais
dire. Mais voilà, faut pas aller le voir.
Il me semble qu'il a voulu faire un autre film. Ça rejoint un peu ce que disait Philippe Arizuri et Corinne Rondeau à l'instant. C'est un film sur ce qu'on appelle maintenant les infox, on appelait autrefois les fake news, parce que c'est un film qui est là pour défaire un scénario. C'est un scénario qui défait un scénario, ce qui est celui de la culpabilité présumée de Jacques Viguier, qui est alimenté en fait par, c'est un personnage qui est important dans le film et dans le scénario, par un accusateur qui se trouve être aussi l'amant de la femme disparue, Suzanne Viguier, bien ça, Suzanne. Hein, je parle sous votre contrôle, Lucille Como.
Suzy.
Et donc le film a quand même, et toute l'action de Dupond-Moretti et du personnage de Marianne Faithfull, c'est de
déconstruire cette propagation de rumeurs, comment la rumeur devient une vérité. Moi, j'ai vu ce film-là qui était traité, en fait. C'est comment on fait face à des mensonges qui sont assénés tellement de fois qu'ils en deviennent, pour l'opinion publique, des vérités. Moi, c'est un film, plutôt un sujet qui m'intéresse, mais c'est un sujet qui est quand même bordé par ce problème de, à partir de faits réels, on en parlera, j'espère, s'il sort quand même en salle, à propos du film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui a le même, à mon sens, le même problème, on y reviendra, c'est-à-dire que l'importance du sujet traité donnerait quitus sur le côté cinématographique de la chose, et c'est quand même pour moi problématique. Il y a une sorte d'efficacité là dans le scénario et dans le film d'Antoine Rimbaud, mais c'est quand même un film, un sujet, un film qui défend une thèse, et moi c'est toute la limite que j'y vois, et Lucile Comeau dit
je lui redonne la parole. Je trouve même que c'est l'inverse, je trouve qu'il en rajoute dans les effets de fiction, dans la dramatisation, l'utilisation de la musique, du montage, de toute façon un film de procès, c'est cinéma, extrêmement ritualisé. J'entends d'accord. bien, mais je ne dis pas que c'est réussi, mais je trouve que la, l'intention cinématographique, pour moi, elle est trop lourde, justement. Elle est trop lourde sur la matière.
Voilà. Philippe Azoury,
j'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure, parce qu'on donnait l'impression que j'aimais vraiment pas le film. Non, le film m'intrigue. Je pense pas que je l'aime énormément, parce que je crois que je suis pas fou des films bâtis uniquement sur scénario. Et j'aime beaucoup les acteurs, mais enfin le travail d'acteur, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a un côté rému, enfin presque chez Olivier Gourmet. J'allais dire chez Éric Dupond-Moretti, mais j'ai fini par les confondre. Mais dans le jeu comme ça de Marina Foïs, il y a quelque chose comme ça d'appuyer. Mais le film m'intrigue, et quand ça m'intrigue, ça m'intéresse beaucoup. Je décrochais pas parce qu'il m'intrigue sur quand même cette question. Comme un jeune cinéaste, je sais pas, enfin si déjà, en tout cas un cinéaste qui réalise un premier film, s'attaque à ce que c'est que justement notre sentiment à nous cinéphiles, parce que le cinéma est sans cesse convoqué, que ce soit Hitchcock, que ce soit, enfin, on dit mais la justice c'est pas le cinéma. Non mais voilà, on va, pourquoi faire, ça m'intrigue qu'un type fasse un premier film où justement il va s'attaquer à l'image pour lui préférer la justice et pour démonter quelque chose de ce que c'est une image toute faite. Ça m'intrigue théoriquement. J'ai un plaisir sur le film qui est un plaisir un peu paresseux, quoi. Voilà. Mais je me suis aussi posé la question de pourquoi il a pas voulu faire à un moment donné un documentaire sur Éric Dupond-Moretti. Parce que l'animal d'Éric Dupond-Moretti a l'air de le fasciner. Pourquoi pas? D'autant plus que maintenant il fait acteur.
Non, mais il a déjà fait un court métrage avec Dupond-Moretti.
C'est vrai?
Ah bon?
Bah oui. Bah évidemment.
Ah, bah, il est fasciné. Non, mais
il est complètement fasciné par la question de la. Je crois que le premier rôle de Dupond-Moretti, c'est avec
Antoine Rimbaud.
Oui.
Ah, mais voilà une information qui nous manquait.
En fait, il est obsédé. Il a suivi tout le procès réellement.
C'est l'animal Moretti.
Non, mais ce qui est intéressant chez ce jeune réalisateur, c'est de se dire comment je fais passer de la fiction dans une histoire que je connais du point de vue des assises.
Oui,
moi je trouve qu'il a des faiblesses en termes de cinéma, mais il a une vraie volonté de dire quelque chose à la société entre le doute et la justice.
Nous sommes d'accord.
Et donc au milieu, c'est la vérité. Absolument. Et donc c'est pas la peine.
Absolument.
Nous sommes presque tous d'accord en disant des choses extrêmement différentes sur une intime conviction d'Antoine Rimbaud.
Je crois que ça leur intéresse, les gens, un film d'amour et d'adolescent. Parce qu'on n'a pas fait quand même 2 ans de tournage pour rien, quoi. Après, toi, tu t'inquiètes pas parce que t'as un petit rôle. Moi, je suis quand même beaucoup de fois dans le film, alors je peux pas forcément comprendre.
Mais qu'est-ce qu'on a entendu là, Lucile Comeau?
C'est un petit extrait de Dans la terrible jungle, qui est un film de Caroline Cappel et de Omblin Ray.
Et qui est le sujet de votre coup de cœur.
Tout à fait.
Ce soir.
Oui, un vrai coup de cœur. La première scène, elle est assez étonnante. Moi, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds en entrant dans la salle de cinéma. Ça commence avec une image de galaxie un peu pop, un peu verte, un peu bleue, surnaturelle, avec une musique un peu planante. Et on découvre assez vite que dans ce ciel, en fait, il y a un angle et la caméra se descend. Et on se rend compte que c'est une pièce et qu'en fait, c'est un plafond avec une projection de ciel dessus. Et en dessous, il y a un jeune
jeune homme qui est allongé sur un matelas à eau, qui est ballotté par des mouvements impulsés par une femme qui est à côté de lui, donc il fait tout doucement bouger ce jeune homme. Et les angles que forment ses jambes, qu'on voit, on voit quasiment que ses jambes, sont étranges. On devine assez vite qu'il est atteint d'un handicap. Et en plus, il est enchevêtré dans une sorte de méli-mélo de guirlandes colorées qui changent de couleur. Bon, alors,
d'accord, ça commence fort, oui.
Alors, donc, il faut quand même un petit peu de temps, je dirais bien 5 minutes, pour comprendre où on est et avec qui on est. Et en fait, de jungle, l'intégralité ou presque du film se déroule dans un lieu clos qui est la pépinière, qui est un institut médico-éducatif où évoluent donc des adolescents qui présentent diverses formes de handicap. C'est un lieu où les deux réalisatrices, donc Caroline Capel et Omblin Lay, ont passé un an et demi de manière très régulière, en revenant tous les mois assez longuement. D'abord, elles ont observé les gens qui y travaillent et puis les adolescents. Puis, elles ont élaboré ce film, mais entièrement avec les protagonistes. Et elles créent un film extrêmement délicat. Alors, j'ai lu que l'une voulait faire un film sur l'adolescence, l'autre un film sur l'insularité. Ça donne un peu les directions et aussi les dimensions de ce film, c'est-à-dire que le cadre épouse la clôture du lieu, qui est vaste, hein, y a beaucoup d'extérieur, mais entièrement muré, et à l'intérieur duquel se vit toute l'intensité de l'adolescence, avec ses passions pour la danse, pour la musique, il y a beaucoup de scènes musicales dans le film, les émois sensuels et amoureux, la cruauté aussi, c'est pas toujours drôle. Le point de vue est à peu près parfait quand on considère la délicatesse, la sensibilité de ce que représente le fait de filmer des personnes handicapées, c'est-à-dire jamais de surplomb, mais sans sacrifier non plus à l'ambition de montrer l'empêchement, de montrer le comique de certaines situations et le spectaculaire aussi. Il y a notamment une grande séquence qui est vraiment extrêmement impressionnante et longuement filmée d'une crise d'un jeune homme qui s'appelle Gaël, qui fait des crises à répétition. Là, en l'occurrence, il est en train de tondre la pelouse et d'un seul coup, il est animé et il se met à se jeter à plusieurs reprises par-dessus un fossé de manière presque chorégraphique, enfin extrêmement spectaculaire, et la caméra prend le temps de filmer ça sur la longueur. D'autres scènes, à l'inverse, sont très courtes et très très mises en scène. Je pense qu'il y a eu un énorme travail de montage qui est quand même très impressionnant. J'ai vu le film il y a déjà longtemps et j'ai vraiment gardé des figures en tête, notamment un personnage qui s'appelle Ophélie, qui est une héroïne absolue, qui chante, qui rappe à la fin, du coup, la fameuse terrible jungle du titre. Les plans sont souvent très larges, les personnages entrent et sortent du cadre un peu comme ils veulent. La jungle n'est pas un zoo et l'île de la pépinière n'est certainement pas une prison.
Le film s'appelle « Dans la terrible jungle », Caroline Capel et Omblin Lay, il vient de... Ray, pardon.
Ah oui, Omblin Lay, non pardon, c'est
ah
moi.
Ah bon, Lay.
C'est tout à fait moi.
Et il sort seulement la semaine prochaine.
Oui, mercredi prochain.
Donc soyez là aux premières séances, évidemment.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Et le dernier film à notre affiche ce soir, ça tombe bien, il s'appelle « The Last Movie ». Hein, c'est fait pour. Et ouais, il a été. J'ai mis un certain temps à écrire cette introduction. Réalisé en 1971 par Dennis Hopper, soit juste après Easy Rider. On sent bien que l'acteur et cinéaste n'est pas tout à fait descendu de ses voyages psychotropes. Alors au départ, on va dire quand même de quoi il s'agit. Il y a une équipe de cinéma américaine qui vient tourner un western assez logiquement dans la cordillère des Andes, ce qui paraît tout à fait normal. Donc dans un village péruvien, une fois le film terminé, tous les Américains s'en vont, mais pas Kansas, qui est donc joué par Dennis Hopper, qui est un cascadeur qui participait au tournage, qui lui est tombé amoureux et de la région et d'une des plus jolies filles de la région. On va voir qu'il est toujours dangereux de rester sur les lieux du crime.
Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans.
Hey! Hold it! Cock! What the goddamn hell's the matter with you, Tex? Where the hell have you been?
My name's Kins. I'm sorry.
I don't care if
you're Kins. Well, I didn't realize.
Cowboy.
What in the hell's going on down there?
Hell. The movies have to bring here violence, and I don't like it.
Ahora quiero presentarles elegido a la parte de la última película, El Muerto.
This is the life.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da.
Ce sont aussi les débuts de Christopherson qui chante la BO de ce film et qui fait partie des nombreuses personnes qui ont accompagné Dennis Hopper au Pérou, qui sont dans le film. Alors il y a cette trame que j'ai résumée, ce tournage de western, c'est l'histoire de Billy the Kid même très précisément, le fait que cascadeur Kansas reste, qu'il rencontre cette femme, mais ça c'est pour essayer de nous donner une linéarité. Mais une fois que l'équipe est partie, les Péruviens, ils ont envie que le cinéma continue. On peut dire ça comme ça aussi. Un autre tournage va s'organiser. Corinne Rondeau, pour parler de ce film. Alors, il y a eu le film culte Isérader. Après, il y a le film maudit parce qu'il a fait un tête four à sa sortie en salle en 71. Alors, voilà, Isérader avait été un tel phénomène que tout le monde attendait le nouveau film de Dennis Hopper. Ils ne l'ont pas attendu longtemps.
Non, mais c'est surtout un film qui est monté au bâton dynamite. C'est-à-dire que même quand vous racontez l'histoire, je pense que les gens qui vont aller voir ce film, il faudra qu'ils soient bien accrochés, ou comme Dennis Hopper et tous les compagnons de bien Sex and Son, quoi, voilà. Alors, il est très étonnant, et ouais, non, parce qu'il...
Il y a pas la mer,
quand
là,
même
au Pérou,
beau. Hein, mais... Non, mais il fait quand même beau, quand même.
C'est Mountains, hein, Sex and Son.
Voilà, ouais, si vous voulez. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est moi je l'ai revu parce que la première fois je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, je comprends rien, parce que même la question de la mise en abîme du cinéma dans le cinéma, puisque Kansas c'est à la fois le cascadeur, la doublure d'un acteur supposé, mais à l'intérieur du premier tournage il y a un second tournage qui est pris en ce deuxième tournage, c'est un tournage des autochtones. C'est
comment ça rigole? Non, parce que je crois pas que ce soit le cas, moi, mais parce qu'il y a différentes couches de temporalité.
Non, mais bien sûr, puisque le montage, j'ai dit qu'il était monté à la dynamite.
Non, mais il n'y a pas deux films qui se tournent en même temps, il y en a deux. Il y en a un vrai.
Et à la suite. Mais vous avez des flashbacks en permanence.
Ah oui, il y a des couches temporelles.
Vous n'êtes pas d'accord?
Ah oui.
Bon, écoutez, je m'en vais.
Restez là, Corinne Rondeau. Non, mais voilà, dans le genre d'état dans lequel peut mettre au fond ce film. Parce qu'une séquence suit une autre et n'est pas du tout dans le même temps et semble être raccord alors qu'elle ne l'est pas.
Non, mais on a quand même deux grandes zones.
Oui, deux tournages. Alors, moi, je vais quand même.
On a quand même deux grands tournages.
Oui.
Hein, le premier avec les Américains.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Le second avec
les autochtones. On va dire ça comme ça.
Et à l'intérieur de ça, on a quand même des flashs.
Oui, des flashbacks.
Et on est d'accord sur le fait que il n'y a pas de linéarité en même temps qu'il y a une linéarité. On est d'accord avec ça ou pas?
On est d'accord.
Bon, et puis j'ai rien à dire en fait.
Bon, Lucille Comeau, prenez le relais. Ça vous apprendra à vous moquer de vos camarades.
Bon, alors moi, le problème que j'ai eu avec le film, j'en ai eu plusieurs, il est assez pénible à regarder. Je pense que c'est un film qui est typiquement bienvenu dans ce type d'édition dans lequel il nous arrive, c'est-à-dire un coffret DVD assez documenté, avec un texte, en l'occurrence de Toret, qui est comme toujours passionnant, extrêmement bien écrit. Mais quand on regarde ce qui a été le cas pour moi, le film, sans avoir tout cet appareil critique... Bon, non seulement on ne comprend rien, mais en plus, enfin, pour moi, ça a présenté assez peu d'intérêt. J'ai eu un peu l'impression d'une sorte de bazar. Bon, c'est vrai que c'est très compliqué à résumer, de bazar un peu fétichiste pour public un peu fasciné par la contre-culture et par cette époque-là. Je suis pas sûre qu'il nous en arrive grand-chose aujourd'hui, dans la mesure où je pense que tout ce que Dennis Hopper a voulu mettre en branle de dispositifs pour critiquer l'Amérique de son époque, parce que ça clignote en permanence de réflexes contre-culturels, ce film, sont devenus eux-mêmes des clichés, tous ces dispositifs-là, et donc du coup... Ça donne une forme qui c'est assez paradoxal, à la fois totalement éclatée et en même temps assez fermée. Bon, moi, j'ai beaucoup pensé à Herzog pendant tout le film, et hélas, la comparaison, c'est difficile à soutenir. C'est-à-dire que c'est un film qui pourrait ressembler à Aguirre ou à Fitzcarraldo parce qu'il a nécessité une technique absolument incroyable, qui a eu un tournage, dont le tournage pourrait être en lui-même un film, en fait. Ce serait même probablement plus intéressant dans le cas de Hopper. Sauf que justement, la substance qui nous en reste, si on n'a pas l'outil critique et si on n'a pas le récit, si on n'a pas le documentaire de Carlotta pour nous expliquer ce qui se passait et qu'en effet tout le monde fumait des joints et qu'il y avait des orgies sexuelles dans les églises péruviennes, je trouve que la substance ne suffit pas à créer un vrai intérêt cinématographique. Pour moi, c'est beaucoup de machins, enfin de trucs un peu formels, la manière de poser la caméra, cette espèce d'esthétique hyper baroque au début, en effet les flashbacks, les allers-retours, la référence à la nouvelle vague française, tout ça vraiment m'a laissé totalement de marbre. Je n'ai pas... Bon, après, j'y reviendrai, il y a une séquence qui m'intéresse, qui est...
Gardez-la en tête.
Une séquence qui regarde vers un autre cinéma, probablement des années 70 américains, peut-être Cassavetes, ou avec des personnages féminins que je trouve très intéressants. Mais sinon, le film en soi, non, m'a pas beaucoup intéressé.
Alors, juste une chose avant de donner la parole à Philippe Azoury. Moi, ce film m'a plutôt passionné. En fait, je ne l'avais pas vu, je croyais l'avoir vu, mais non, parce que je m'en souviendrai. Donc, c'était vraiment tout à fait... moi, je trouve ça assez passionnant. Mais dans l'édition en DVD, il y a une... qui est présenté comme un... Vous avez le choix, vous avez le film avec ou sans l'intro de Dennis Hopper.
Vous me piquez mon intro.
Alors l'intro, voilà, vous allez comprendre ce que je vis en fait chaque jour dans la dispute quand je parle en dernier.
C'est méta.
Dennis Hopper, ça dure 1 minute 15. Il présentait le film en 2006 à une audience. Comme ça, il ne pouvait pas être là. Et il dit, en fait, quand je tournais le film, je pensais à une phrase de Godard qui était « Un film, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, mais pas forcément en cet ordre. » Voilà. Et donc, c'est comme ça, je pense. C'est le seul outil, peut-être, dont on a besoin pour aller découvrir The Last Movie. Philippe
Azoury. Non, c'est effectivement peut-être un outil génial, cette phrase-là. Moi, c'est un film que j'avais vu en arrivant à Paris il y a une vingtaine d'années. Je l'ai vu une ou deux fois, comme ça, une fois à la Cinémathèque, une fois ça repassait à Beaubourg. J'adorais ça. J'étais drogué à ça, c'était tout ce que j'aimais, enfin le côté effectivement vieux machin contre-culturel, merci Lucille Como de me rappeler mon âge, le très très sexy, enfin avec cette actrice qui a fait un caméo dans Mes petites amoureuses de Stache, personne ne le dit jamais, mais voilà, là c'est dit. Voilà, et effectivement le côté le Pérou, on se demande pourquoi pas la Colombie parce qu'ils ont quand même tous tellement chargés, c'est le Pérou. Et j'adorais ça, après je m'étais un peu quand même j'y suis pas retourné cet été, mais pas j'avais assez envie, mais j'ai pas eu le temps.
Version restaurée, magnifique.
Voilà, 4K, sur le travail. Enfin, vraiment avec des couleurs incroyables. J'étais pas retourné, je pense aussi avec un peu comme ça, la peur d'être très, 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 très déçu. Le film se référant vraiment à une époque où on écrivait texte avec un T majuscule et où on créait quasiment une sorte de prose libre, enfin de poésie libre continuellement. Je l'ai revu là donc en DVD ce week-end avec le week-end dernier et je l'ai trouvé d'une ça, je suis désolé Corinne mais d'une super lisible enfin vraiment j'étais mais je me dis mais c'est pas possible pourquoi j'ai cru que ce truc était aussi complexe baroque échevelé la quatrième pour moi d'une linéarité totale effectivement dialoguant beaucoup plus qu'avec Easy Rider dont il est censé être une sorte de suite ou d'extrapolation avec le Faces de Cassavetes dans la scène auquel pense Lucille. On voit Samuel Fuller diriger, on pense un peu à ce que va être le Billy the Kid de Peckinpah, mais aussi ce que sera l'état des choses de Wim Wenders. Mais déjà 10 ans après, sur cette idée-là, que finalement, le cinéma, que n'a pas Wenders. Wenders pense que le cinéma est en train de mourir, et que le cinéma, c'est un joli machin qu'il faut quand même conserver. Lui, Hooper, pas du tout, c'est que le cinéma salit tout, partout où il passe. Et c'est pas très loin, finalement.
Le cinéma, c'est le mal.
Ce qu'on a vu, le cinéma, c'est le mal, et le cinéma, c'est l'Amérique. Et c'est ça. Et c'est quand même, c'est que l'Amérique, ce que l'Amérique est en train de faire au Vietnam, là, c'est montré au Pérou, c'est ce que l'Amérique a fait aussi sur le territoire américain. On revient finalement quand même aux interrogations de Regadas au début. C'est vrai quand même que le cinéma, l'Amérique égale cinéma, et le cinéma salit tout ce qu'il touche. Le cinéma est un poison. Et c'est un film que je trouve troublant vraiment là-dessus et qui m'a beaucoup bouleversé personnellement. J'ai revu avec un infini plaisir et une très grande lisibilité.
Alors, court propos de Corinne Rondeau.
La deuxième fois, effectivement, il a une très grande lisibilité parce qu'en fait, les choses ont des résonances incroyables. Et puis, pour revenir juste sur. En fait, quand il a le prêtre pour l'onction, il dit c'est quoi votre péché? Il dit le cinéma, pas forcément l'Amérique, mais d'un côté il avait dit on a tout bousillé à la fin de Easy Rider.
L'Amérique et le cinéma se confondent quand même.
Bon, il faut aussi voir que c'est aussi de l'autoportrait qu'il y a à l'intérieur de ce film-là.
C'est l'Americana, donc c'est aussi c'est l'autre version.
Corinne, c'est aussi. Finissez la phrase.
J'ai fini.
Oh, loin du micro, j'aime pas ça. Lucille Como.
Pardon.
Non, mais c'est tout à fait. Enfin, la lisibilité, je suis entièrement d'accord. Moi, je trouve justement qu'il est trop lisible, ce film, que les réseaux qu'il crée, les réseaux de sens entre la culture hippie, entre tout son pendant mystique, un peu chrétien, etc. Il est extrêmement. Il est presque trop. Ça énerve presque trop le film. En fait, je le trouve pas fou du tout, ce film. Je m'attendais à quelque chose d'un peu fou.
Ça nous inquiète un peu pour vous, Lucille Como.
Je trouve qu'au contraire, il est hyper significatif parce que il coche un peu toutes les cases d'un cinéma d'époque et voilà, ça m'intéresse pas beaucoup.
Oui, mais il coche pas des cases quand il le fait, ce film.
J'entends bien, moi je parle de ma réception aujourd'hui et sans justement la recontextualisation nécessaire, le moment de la vie et de la carrière de Dennis Hopper. Si on n'a pas ça en tête, je suis vraiment pas sûre. Après, pourquoi pas, ça peut rendre un film intéressant, mais le film en soi, je le trouve pas incroyable, vraiment.
Alors, ce que je trouve incroyable, pour finir là-dessus, c'est quand même les qualités de comédien de Dennis Hopper, qui quand même ahurissant. Enfin, dans toutes les le type de séquences, parce qu'il joue des choses extrêmement différentes tout au long de ce film, pas si long que ça, et jusqu'à la toute dernière séquence, qui est quand même presque.
Oui, à tel point qu'en fait, c'est ce qui résiste, je trouve justement, ce qui est le plus insaisissable, c'est lui. Il a perdu énormément de kilos, il est extrêmement mince, et il est un peu tout à la fois. Et c'est la seule chose que j'ai vraiment regardée, je crois, dans ce film, c'est la manière dont il évolue physiquement.
Au-delà de ça, Lucille, enfin, il y a quelque chose sur la virilité, parce que c'est quand même une sorte de cascadeur, de cow-boy, c'est le cow-boy des gitanes qui arrive, et finalement, on voit quelque chose de blessé qui s'effondre progressivement, enfin, qui tombe à genoux littéralement dans une des séquences que vous aviez citées. Enfin, il y a quelque chose sur la virilité qui est très très puissante pour un film de 71. Quoi. Bon. Plus que chez Cazavette finalement, avec un film comme Us Band qui remettait pas du tout ça en cause. Lui s'y attaque alors que c'est Royal au bar. Enfin, il est magnifique, tout le monde, personne ne lui résiste. Et malgré tout, il s'égratigne.
The Last Movie de Dennis Hopper à découvrir maintenant en édition Prestige limitée en DVD et Blu-ray chez Carlotta. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, apaisons-nous avec Sarah Dion, qui va nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse, Sarah.
La question d'hier était: de combien de romans l'œuvre de Guy de Maupassant se compose-t-elle?
Et
la réponse est 6.
Eh oui, comptez chez vous. Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition du musée Pouchkine, 500 ans de dessin de maître, à la Fondation Custodia à Paris. Quelle est la question, Sarah?
Quel roman d'Alexandre Pouchkine a été mis en opéra par Tchaïkovski?
Et votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les infos sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. On se retrouve nous lundi à 19h pour une dispute consacrée au théâtre avec Marie-Josée Sirage, Christian-Christophe Brianchon, Thomas Corlin, notre affiche La fin de l'homme rouge, d'après le livre de Svetlana Alexeyevitch, une adaptation mise en scène par Emmanuel Mérieux. Heptaméron, d'après l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, mise en scène Benjamin Lazare, c'est le théâtre des Bouffes du Nord. Trans, de Didier Ruiz, qui est en tournée. Et puis un coup de cœur pour le festival Antigel.